Et bonjour à tous, et c'est avec beaucoup de joie, mais aussi d'émotion, que je vous présente la dernière émission de cette première saison de Nos Santé Mentales en Lutte sur Fréquence 7. Donc ce sera un peu particulier aujourd'hui, ce sera une grosse émission que l'on va faire plus longue que d'habitude, si c'est possible encore, et qui sera diffusée comme toujours le premier et le troisième jeudi du mois de juin, et bien sûr nous n'oubliez pas le replay. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il fait chaud, mais sinon, ça va plutôt de ce côté du studio. Clara, tu vas bien?
Oui.
Ah, trop cool qu'on entende enfin ta voix. Coucou.
Et coucou.
Et en tout cas, on va avoir la chance d'avoir plein de témoignages pour cette dernière émission, puisque j'ai beaucoup de copaines que j'ai un peu embêtées, mais qui m'ont tous répondu pour témoigner sur ce thème du jour. Eh bien, qu'est-ce que ce thème du jour? Réinventer, mais surtout révolutionner l'amour et la parentalité. Alors, on aura aussi une invitée au plateau qui sera là et qui est d'ailleurs une bénévole de la Bibli qui nous a tant aidés pour cette émission. Et puis, nombreux extraits de podcasts aussi des copaines qu'on vous passera pour le plaisir de vos oreilles. Et donc, pour commencer, eh bien justement, une des émissions qui m'a inspirée pour cette dernière thématique de la saison, eh bien, c'est du local. Ça se passe ici. C'est donc l'émission de la collective des copaines qui sont donc là aussi le deuxième et quatrième jeudi du mois. Elles ont consacré tout le mois de mai à la famille. Et vous savez que c'est un thème qui me parle pas mal. Alors, la première émission était consacrée au thème de la famille monoparentale, hein, parce que comme elle nous le rappelait, c'est 25% des familles qui sont monoparentales et c'est 80% de ces familles qui concernent des mères solo. Donc au sein d'une société patriarcale, ça dit quelque chose, et puis capitaliste aussi bien sûr. Il y avait Marion Parra qui parlait justement des rapports sociaux de domination et qui parlait de cette fameuse bonne famille, de cet idéal type de famille biparentale, hétéro et productive, avec une maman, des enfants biologiques et bien sûr de leurs génitrices respectifs. Frédérica et Sandrine de l'association Les Mères Roseaux étaient présentes pour témoigner sur le sujet des mères solo, donc voilà, de ces mères déter, militantes aussi pour le statut de parent et de mère isolée, pour avoir plus de droits et vivre un peu mieux tout ça. Et c'est sur la musique de Diam, Sur la tête de ma mère, que cette émission nous restait dans la tête avec cette question: qui va faire le ménage? La révolution, elle fera le ménage. Et la deuxième émission continuait sur les familles nucléaires, donc justement ce concept qui, loin d'être naturel, est une autre des constructions de notre chère société. C'est ironique. Donc nous avions notre chère Vanessa avec sa chronique experte qui nous parlait de son désamour de la famille et de cette fameuse autorité du mari et du père qu'on tâche d'exclure de nos noyaux familiaux. Donc voilà, pour une quarantenaire vivant seule avec une vieille chatte incontinente, elle nous parlait de son modèle parfait de la famille qui pour elle était celui qui ressemblait à ses rêves d'enfant. Voilà, ça m'a beaucoup parlé aussi, cette question des récits et des imaginaires sur lesquels on se construit et on veut faire famille autrement. Et puis, cette idée aussi que, bien sûr, certaines familles reproduisent avec leurs privilèges eh bien, des inégalités et nombreux vecteurs de domination. Donc avec cette famille qui serait une lutte collective et non pas une affaire de réussite individuelle. Donc oui, la famille peut aussi être un lieu de refuge et un moteur de lutte collective. Cette question de coparentalité et d'adoption, d'ailleurs, on y reviendra au cours de cette émission pour bousculer aussi la conception traditionnelle de la famille. Et puis, cette troisième émission, elles l'ont consacrée justement à réinventer des manières de faire famille autrement, avec tous ces espaces aussi domestiques, mais pas que, qui peuvent être lieux de solidarité, d'amour et de respect, de faire finalement de la famille un lieu d'émancipation, émancipation. Et puis, de finalement, une déhiérarchisation des liens dans la famille, puisque la famille n'est pas seulement la famille de sang, elle est aussi la famille choisie. Et ça se fait avec nombreuses relations qui ne sont pas que des relations amoureuses ou dites de couple. Il y a aussi tout un tas de relations qui nous permettent de faire famille autrement et de grandir et de s'épanouir avec tout cet amour et ce désir d'être ensemble. Et puis de citer Gabrielle Richard, l'une de mes autrices favorites québécoises que j'avais ici, bien sûr, pour préparer cette émission, et son livre « Faire famille autrement », donc qui a été publié aux éditions Binge Audio sur la collection « Sur la table », dirigée par Victoire Thuaillon, que je vous conseille grandement de lire dans son intégralité pour cette collection. Et donc, j'aimerais vous en lire un extrait pour vous montrer justement ce qu'elle raconte dans ce livre sur le fait que la famille n'est pas quelque chose de figé, peut aussi être fluide et s'adapter aux personnes concernées. C'est donc à la page 32 de son ouvrage. Ces histoires ne sont pas coulées dans le béton. Ce livre explore les manières de faire famille autrement, en dehors des impératifs de binarité de genre, d'hétérosexualité et de complémentarité homme-femme. Queerer la famille, c'est la repenser libérée de ses assises normatives. Je vois cela un peu comme faire un grand puzzle. Quand les personnes cisgenres et hétérosexuelles souhaitant devenir parents s'attellent à la réalisation du puzzle, elles connaissent d'avance l'image qu'elles cherchent à assembler et savent quel morceau est à mettre à quel endroit. Bien sûr, terminer un puzzle peut prendre un certain temps en fonction de notre aisance ou des ressources dont on dispose, par exemple. Mais de manière générale, elles ne seront pas amenées à questionner la grande image tant celle-ci va de soi, tant chaque morceau joue un rôle spécifique pour contribuer à la façonner. Les personnes queer désirent aussi faire des puzzles. Seulement voilà, on leur a toujours dit qu'elles ne seraient pas en mesure d'en faire. Et même lorsqu'elles prennent finalement place devant la table, elles ne disposent pas de la grande image. Elles ont devant elles des dizaines de pièces. Et si elles devinent bien que toutes ces pièces devront figurer dans le puzzle final, elles ne savent pas encore où se trouve leur place. Voilà, donc pour ce grand puzzle que même les familles queer peuvent faire, et elle nous invite véritablement à regarder du côté de ces familles queer et notamment non-binaires pour trouver des modèles de faire famille autrement. Et je voulais terminer cette introduction par justement un extrait de l'émission des copaines de la collective sur Fréquence 7, sur l'institution de la famille et sur l'éloge aussi du changement. Voilà, pour montrer aussi que si c'est trop abîmé, nos familles nucléaires, nos familles de sang, eh bien on peut en imaginer d'autres qui nous font du bien.
Bon, nous ne sommes pas vraiment au clair sur ce qu'on a envie de faire de cette notion de famille. Ce dont on est sûr, par contre, c'est de l'immense attachement qu'on a pour les liens que l'on tisse en militant, pour les amitiés qu'on construit et qui nous nourrissent tout autant. Alors pour conclure cette émission et ce cycle autour de la famille, on avait envie de vous partager un dernier extrait d'Un désir démesuré d'amitié d'Hélène Giannichini.
La famille est une valeur centrale de nos sociétés, l'endroit de la sécurité et de la confiance, nous dit-on. Alors que mes parents n'avaient qu'une idée en tête, fuir leur foyer pour vivre leur vie, j'entends de plus en plus de personnes de mon âge dire qu'elles sont très familles ou que leur rêve est de fonder leur famille. L'épidémie de Covid-19 a encore accentué ce recentrement, puisque le foyer a été le lieu de confinement par excellence. On a plein les gens seuls, et malgré certaines difficultés de cohabitation, remercier ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants ou son couple d'exister. Le Covid a bouleversé nos liens, en nous empêchant notamment de voir celles qui n'étaient pas notre famille, en interdisant les rassemblements et les fêtes, en qualifiant certaines relations de non-essentielles. Pendant quelques mois, la famille a été déterminante, présentée comme un refuge, et nous avons presque oublié qu'elle est aussi un lieu terrible de violence et de crimes, que l'inceste touche une personne sur 10, et que les féminicides sont, dans la majeure partie des cas, perpétués par un mari ou un ancien compagnon. La famille n'a jamais été un havre de paix, alors pourquoi vouloir en fonder une ? Parfois le langage est pauvre, à l'image de ce que la société nous offre. Nous tentons d'ajouter des adjectifs comme « choisi » ou « queer » après le mot « famille » pour nous l'approprier, mais il n'est peut-être pas à nous. Noé m'avait dit « La famille, tu sais, je crois qu'il faut la leur laisser. » De qui parlait-elle au juste ? Je lui expliquais que je n'y tenais pas plus que ça, mais que je voulais surtout que nous puissions nous protéger, être le contact d'urgence pour être appelé en cas de problème. Les familles queer n'existent pas, Noé en était persuadée. Les deux termes étaient presque antinomiques selon elle. On ne change pas les structures, ce sont elles qui nous changent. C'est un peu comme ces personnes qui rejoignent le gouvernement en espérant le changer de l'intérieur et qui se font broyer en quelques secondes. Elles se font toujours pulvériser. On ne peut pas dénoncer la normativité de la société et en même temps réclamer l'une de ces structures les plus prescriptives. Surtout, disait-elle, être queer exige de se confronter à ce qu'il y a d'idéologique dans la famille. Bien sûr, pour la plupart, les gens aiment sincèrement leur enfant et leur partenaire et pensent avoir trouvé là les modalités de leur bonheur. Mais la famille n'est jamais qu'une affaire privée. Elle participe à l'engencement de la société. Vie privée et vie publique se confondent ici à travers la nécessité de l'ordre. La famille est le lieu privilégié où la tranquillité privée fabrique une certaine forme d'ordre public. La famille est ce qui nous tient, c'est-à-dire ce qui nous aide à vivre en nous polissant.
Noé parle beaucoup pendant le dîner, et je l'écoute très attentivement en sirotant mon verre de vin. Elle pense qu'il ne faut pas détruire la famille, mais plutôt passer à autre chose, l'oublier. Elle veut trouver des alternatives et que celles-ci soient reconnues comme étant tout aussi valables. L'un des arguments pour faire primer la famille est la longévité, m'explique-t-elle. Plus une relation dure longtemps, plus elle est considérée comme valable, et à ce jeu, nos parents, qui nous ont vus naître, gagnent à tous les coups. Noé déplie les implicites de cette obsession de la famille, et son argument de la durée me convainc tout particulièrement. « C'est n'importe quoi », ajoute-t-elle en enlevant son pull, les joues rosies par l'alcool. « Certaines personnes m'ont plus apporté en une soirée que mon oncle en 30 ans. » Je pourrais reprendre sa phrase à mon compte. « Noé a plus transformé mon existence que beaucoup de membres de ma famille biologique qui me connaissent depuis ma naissance. » Qu'importe si les liens durent, ils peuvent, dans leur fugacité, nous bouleverser. Renoncer à la famille, ce n'est pas seulement mettre en doute l'ordre et la biologie, c'est aussi faire l'éloge de l'impermanence, du changement. Allongée sur son canapé, je la regarde aller et venir, plutôt convaincue par ce qu'elle me raconte. Elle a peut-être raison, il faut abandonner la famille. Noé allume une cigarette, elle est de plus en plus animée. Je reconnais sa colère à l'accélération de sa voix. Non, mais on peut quand même pas ignorer que l'extrême droite a constamment ce mot à la bouche. Je ne peux que lui donner raison. Oui aux familles naturelles, scande le parti Fratelli d'Italia, dont la candidate aujourd'hui élue a fait du slogan au Roland pétainiste « Dieu, patrie et famille », la devise de sa campagne. Et tu te souviens qui voulait sauver la famille dans les années 2010 ? J'acquiesce. La putain de manif pour tous. Noé et moi étions allés dans les grandes manifestations pour le mariage homosexuel. Nous y avions fait une expérience de la communauté, de la force d'être ensemble dans un même cortège avec nos semblables. Nous n'étions déjà pas pour le mariage, tout en tenant à l'égalité des droits. Mais nous nous souvenions aussi des week-ends où le métro parisien était envahi de pulls bleus et roses, d'enfants avec des drapeaux ridicules et de ce mélange de honte et de rage, du sentiment d'être humilié dans nos rues, à la télé, dans les journaux, par des gens qui ne savaient rien de nos vies. Des enfants de ces familles soi-disant exemplaires qui déferlaient sur la capitale tous les mois se sont depuis découvertes lesbiennes ou gays et doivent vivre avec le souvenir de leur père criant des insultes homophobes, de leur mère fière de dire qu'il n'y avait pas de ça chez eux, de leurs frères et sœurs, de leurs amis de la paroisse comparant l'homosexualité et la zoophilie, les homosexuels et les pédocriminels. Ces années sont une tâche indélébile. Et parmi nous, certaines doivent continuer leur vie après avoir assisté à toute cette haine qui les éclabousse à rebours, avec le sentiment terrible d'avoir défilé contre leur propre existence.
On les déteste, les papas et les mamans de cette marée réactionnaire, continue Noé en se resservant un verre. Si la famille c'est leur truc, je la leur laisse, ils l'ont trop abîmée. L'amour de la famille, c'est ce qu'ils ont inventé pour nous faire marcher droit. Se méfier de la famille me semble un réflexe plutôt sain. Ou alors, nous ne devrions jamais cesser d'interroger ce qui s'y cache. Elle me cite la définition donnée par le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Famille, première source de névrose et de maladie mentale. On dit cellule familiale, antichambre de la prison, souvent à perpétuité. Il faut considérer la famille comme une institution économique à part entière, qui produit des richesses, mais aussi qui organise la circulation, le contrôle et l'évaluation, que nous appelons des arrangements économiques familiaux. Noé insiste sur cette autre facette de l'idéologie familiale qui s'occupe d'argent en nous parlant d'amour. Dans ce mécanisme, les femmes sont d'ailleurs presque systématiquement lésées. Nous venons d'entamer l'une des conversations qui nous mobilisera le plus dans les années à venir. Il y aura encore beaucoup de soirées comme celle-ci, pendant lesquelles nous hésiterons entre la tentation de hacker le mariage pour servir notre propre agencement et l'envie de renoncer à ce modèle. Quand je me retrouve dehors, il pleut et la nuit est déjà bien avancée.
If you had to wear my shoes, you'd probably take them off too.
Voilà, moi ça m'a parlé tout ça, parce que réinventer la famille, c'est une affaire aussi que je prends à bras le corps. Dans cette famille, il se trouve que récemment j'y ai aussi inclus des membres de ma famille de sang, réinclus, mais ceux que j'avais choisis. Et puis d'ailleurs là-dessus, sur la notion de clan, de communauté aussi, comme quoi il faudrait tout un village aussi pour élever un enfant dans l'éducation, et toute cette notion de meute, eh bien on se rappelle des mots de Tiffany qui nous disait faire fameute avec donc toutes les personnes animales avec lesquelles elle partage sa vie. Et ça aussi, ça compte. Alors moi, je pense à mon amour, je pense à mes amours, je pense à ma Sissi d'amour avec qui je partage ma vie et j'en suis remplie de gratitude et d'amour.
La révolution, elle se joue tous les jours dans ma manière d'aimer et de me libérer. Dans la liberté d'être soi et de l'assumer, dans la confiance que j'ai en toi et l'envie que j'ai de grandir à tes côtés, dans mon amour qui ne cesse de grandir à mesure que tu me laisses m'épanouir. Ma révolution, elle est de faire famille avec vous, d'être coparent, de faire ni zoom zoom avec vous deux, de vivre avec notre enfant féline, si si chérie, de les considérer comme des membres de ma famille choisie à part entière. Ma révolution, elle est de refaire famille avec certains membres de ma famille de sang, de m'inspirer de la relation de mes parents qui, après avoir plutôt foiré leur relation de couple, ont réussi à ne pas gâcher leur amour en chérissant une belle relation d'amitié. Ma révolution est qu'on soit soudés face à celles qui préfèrent ne pas regarder la vérité, exclure l'élément perturbateur de leur fragile bulle de confort en se complaisant dans le déni. Ma révolution, c'est nos contre-soirées, quand on se fait des enchoyades végées au soleil entre nous, quand mon petit frère d'amour nous choisit et s'allie envers et contre tout, quand t'as pas besoin d'être queer pour vouloir un monde plus joli où l'amour est au cœur de nos cris. Ma révolution, c'est la force que vous me donnez en choisissant de rester. Ma révolution, c'est de vous aimer tellement fort, mes amix, mes amours, mes enfants, que ça me donne des ailes pour voler. Ma révolution, elle est pas finie. Peut-être qu'elle prendra le chemin de l'adoption un jour, en coparentalité, avec plein de gens sur qui compter. Pour faire famille autrement, pour offrir le meilleur à ces petits êtres déjà nés, qu'on n'a pas besoin d'avoir créés pour aimer. Ma révolution, elle est dans mon rôle de parraine, avec toi Raphaël, pour qui je ferai n'importe quoi, mais je tâcherai surtout d'être la meilleure version de moi. Ma révolution, elle est adelphique, inclusive et si joyeuse.
Alors, révolutionner la parentalité, c'est aussi un thème qui est cher à l'une des artistes hein, qui ont inspiré cette émission tout entière, puisque l'acronyme de Nos Santé Mentales en Lutte, c'est SML. Je parle donc de Sophie-Marie Laruy, qui, avec son nouveau podcast Tiroir Caisse, nous parle justement de la parentalité avec sa psy. Donc, c'est assez intéressant, même si j'ai eu un peu peur au début parce que c'est une psychanalyste. Mais elle nous raconte que un jour, elle a fait un bébé grâce à son chien, son compagnon et sa psy, dans cet ordre-là. Je vous invite aussi très très chaleureusement à aller voir le documentaire Faire famille de Océan, donc son meilleur ami, avec lequel elle fait famille autrement. Et puis aussi, bien sûr, tous les podcasts de Musae, hein, ce podcast sur la santé mentale qui est si précieux, notamment L'état de grâce, aimer sans s'étouffer, l'épisode 6, ou encore Relations amoureuses et santé mentale avec Claudia du Self Love Project. C'était dans les Musae Story. Voilà. Et puis un magnifique article chez Musae qui est sorti, qui s'appelle donc L'amitié pour sortir de l'emprise, hein, donc cette ode aux autres liens sans hiérarchie relationnelle. Donc toutes ces amitiés pour relationner qui permettent aussi de se construire un système sur lequel on peut se reposer. Bon, et puis il suffit de taper le mot parentalité dans votre barre de recherche de Spotify, par exemple, pour trouver des dizaines de podcasts sur la parentalité, mais aussi la santé mentale et les croisements avec nos luttes et avec ce qui traverse nos vies. Donc, c'est justement pour en parler que j'ai invité aujourd'hui Laetitia. Salut.
Salut.
Merci beaucoup d'être là, Laetitia. Tu es donc une de nos bénévoles de la Bibli. Les lins, les lunes, les lynx.
Avec plaisir.
Donc, merci vraiment. Et ben aussi, comment tu veux te présenter, comment tu te présentes au monde avec tes mots?
Je m'appelle Laetitia, j'ai 39 ans, j'ai deux enfants, je vis avec mon conjoint en Ardèche. Et la particularité de notre famille, c'est qu'on a tous quelques troubles du neurodéveloppement, si on peut dire. Donc, une famille atypique.
Et alors aujourd'hui, on parle de justement ces révolutions de l'amour et de la parentalité. C'est quoi, toi, ta révolution? Comment elle est arrivée dans ta vie? Et comment est-ce que tu veux témoigner sur ce sujet aujourd'hui?
Bon, je vais essayer de ne pas pleurer. Je dirais que ça a été d'avoir un enfant atypique. Un enfant autiste qui présente une déficience intellectuelle, donc un handicap assez important. Et ça a remis en question pas mal de choses sur qu'est-ce qu'on projette quand on veut un enfant, par exemple, sur la vie qu'on aura avec lui et avec son ou sa partenaire de vie, par exemple. Donc Raphaël, qui a 11 ans, est non-verbal, il est scolarisé en IME depuis qu'il a 6 ans, à peu près l'âge du CP pour les enfants ordinaires.
Donc c'est un institut...
C'est un institut médico-éducatif situé en Ardèche, et ça se passe très bien, Raphaël va très très bien. Il est entouré d'amour, il est très bien accompagné, de ce côté-là, tout va très bien. Le second, donc Martin, qui a 8 ans, a un diagnostic de TDAH, il va très très bien aussi. Lui, il est scolarisé en milieu ordinaire, donc avec des aménagements comme une AESH, entre autres, voilà.
Donc c'est une accompagnatrice?
C'est une aide, on va dire. C'est pour les élèves en situation de handicap, donc une personne dédiée à l'enfant qui va l'aider... dans ses apprentissages.
Comment est-ce que vous avez accueilli cette expérience de la parentalité? Comment est-ce que vous avez décidé de faire famille à la manière qui était la vôtre?
Alors nous, j'allais dire en bon hétéro, on ne s'est pas posé trop de questions en fait. On voulait des enfants, peut-être qu'on aurait dû s'asseoir autour de la table et se dire quels sont nos souhaits pour l'éducation. Et on n'a même pas fait ça en fait, on s'est juste dit bah tiens, on veut des enfants, ça a l'air cool, on en a toujours voulu, donc voilà. Donc jusque-là, ça a été assez facile. Voilà. On est assez isolés, je dois dire. Les ressources, elles ont été plutôt au niveau de ce qui existe, au niveau, comment dire, régional. Enfin, je sais pas comment dire. Des ressources plutôt des associations qui existent, avec des éducatrices principalement, par exemple pour le répit.
Et je me rappelle qu'à un moment, ça m'a beaucoup marqué parce que tu me disais que tu allais exposer un travail photographique qui t'est personnel sur des œuvres que ton fils réalise. Et ça m'a beaucoup marqué. On voyait dans tes yeux briller tellement d'amour et de fierté. Est-ce que tu veux nous parler aussi de ce lien spécial et de comment est-ce que tu es en lien avec tes enfants?
Oui, alors, en parlant du lien, si je dois retracer, en ce qui concerne Raphaël, on était assez fusionnels quand il était tout petit. Et puis, il y a eu la découverte de son handicap qui est apparue quand il avait 2 ans, à peu près. Et le lien s'est comme ça un peu effiloché de mon côté. Et c'est surtout mon conjoint, donc son papa, qui a pris le relais. Et puis moi, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, je me suis consacré beaucoup au parcours diagnostique. Et Raphaël, à cette période-là, c'était devenu un peu comme un problème à résoudre, quoi. Il fallait trouver les moyens de faire en sorte qu'il soit un peu plus normal, un peu moins handicapé. Et puis, chemin faisant, je me suis dit, mais quand même, regarder tous les jours cet enfant comme une personne qui devrait être autre chose, quand même, je pense, il doit le sentir, et c'est pas très sain. Donc il y a eu tout un chemin, comme ça je dirais, qui a duré quand même bien 2 ou 3 ans, où un jour j'ai regardé, je me suis dit, bah là ça y est, je t'accepte de façon inconditionnelle, et même sans objectif de progression en fait. Souvent les gens me disent, ben est-ce qu'il fait des progrès quand même? Et puis c'est plus du tout un sujet, s'il progresse tant mieux pour lui, et s'il progresse pas, ben c'est pas grave en fait. Il est suffisant tel qu'il est.
Et justement, sur cet amour que tu as inconditionnel pour tes enfants aujourd'hui, avec juste leurs particularités, eh bien, est-ce que toi, tu as vécu ça en tant qu'enfant? Parce que c'est vrai que souvent dans les récits, on entend pas mal dans la parentalité, les révolutions aussi de la parentalité. Je pense à ce manuel « Nos enfants nous-mêmes », manuel de parentalité féministe qu'on a à la Bibli qui doit te parler. On entend cette volonté de pas reproduire des schémas aussi toxiques qu'on a pu recevoir de nos parents ou même de la cellule familiale tout entière. Est-ce que ça te parle, ça?
Ça me parle, oui. Après, j'ai pas vécu de violence à proprement parler. J'ai découvert que moi, j'avais un TSA et un TDAH il y a 3 ans. Et j'ai grandi donc sans savoir que j'étais porteuse de ces troubles. Et donc mes parents ont fait comme ils ont pu dans les années 90 dans lesquelles où j'ai grandi. Donc j'étais plutôt considérée comme une enfant introvertie qui n'aimait pas trop aller vers les autres enfants. Et il n'y avait pas de troubles nommés en fait. Donc c'était plutôt, si on peut dire, une sorte de maltraitance, mais plutôt institutionnelle de pas être connu dans ses particularités et d'être obligé de rentrer dans le moule et de suivre le mouvement alors que c'était pas du tout adapté à mon fonctionnement. Et ça, je l'ai pris plutôt contre moi-même en me disant c'est vraiment moi qui ai un problème en fait. Et oui, les enfants, ça répare énormément parce que de pouvoir les regarder et de se dire ben vous êtes parfait comme vous êtes, c'est la société qui est pas adaptée. C'est de faire le travail avec eux que moi j'ai pas reçu enfant. Avec mon deuxième enfant, lui qui est donc oralisant, même très oralisant, qui a un trouble de l'hyperactivité, qui lui a même soif de connaissances sans arrêt. Enfin, j'ai pris vraiment un plaisir à lui apporter des connaissances, de la culture, de toutes sortes de choses, enfin de tous les livres qu'on pouvait lire et même depuis tout petit, et de faire en sorte qu'il n'y ait jamais une question sans réponse, et de faire en sorte que personne lui fasse de mal, qu'il soit accompagné du mieux possible, de tout lui expliquer, voilà.
De lui faire confiance et de l'écouter. Finalement, il t'en apprend tous les jours, quoi.
Oui, moi j'aime bien dire que mes enfants, c'est mes petits maîtres. Hein. Que ce soit Raphaël, l'aîné, parce que moi, mes enfants, je voulais leur, j'aimais bien dire que je voulais leur transmettre des racines et des ailes. Donc les racines, ça aurait été mes valeurs, et des ailes, l'élan suffisant pour vivre leur vie, etc. Donc les racines, Raphaël, je pense qu'il en a rien à faire de mes valeurs et de... d'où on vient, etc., parce que il est pas dans sa déficience intellectuelle, et sa façon d'être au monde est telle que vraiment ça n'a aucune importance. Et les ailes, c'est probablement que je vais devoir m'en occuper toute sa vie, en fait. Donc voilà. Ça, le projet, il est complètement rabattu.
Les petits maîtres, j'adore cette image.
Oui, c'est ça.
Et finalement, quand donc, tu disais voilà, que tu as découvert un petit peu tardivement du coup, son handicap et que, en effet, c'est, je trouve ça très courageux de ta part aussi de témoigner avec ces mots parce que souvent aussi, quand on pense à la famille, on a une vision aussi très validiste de la famille. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que je suis tellement reconnaissante de pouvoir t'accueillir parce que voilà, c'est très précieux aussi ton témoignage. Et quelles ont été tes ressources? Est-ce que c'était donc, comme tu dis, truc l'IME, est-ce que c'était des ouvrages? Est-ce que c'était des associations? Est-ce que tu t'es tu as trouvé des groupes de parole? Enfin, quelles étaient tes ressources?
Alors, les ressources que j'ai pu rechercher au début, c'était dans des lectures et c'était justement beaucoup tourné autour de regarder notre enfant autiste qui est devenu tellement merveilleux grâce à nous, grâce à notre acharnement à faire telle ou telle méthode. Donc moi, j'étais dans la culpabilité de me dire, moi, j'ai pas l'énergie, en fait. J'ai fait une grosse dépression du postpartum quand mon deuxième enfant est né. Ça arrivait au moment où j'ai lu tous ces bouquins. Le diagnostic d'autisme est arrivé, j'étais en plein postpartum. Donc il y a eu beaucoup de culpabilité au départ. Et après, ce qui a pu m'aider, je pense que c'est la notion de neurodiversité et neurodivergence. Cette façon d'être au monde, justement, qui est juste telle qu'elle est et qui n'a pas plus ou moins de valeur. Et puis, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que on est dans une société capitaliste et de ce regard porté sur une personne qui ne va pas apporter de résultats, ne va pas apporter de, comment on peut dire, de produits de son travail, de productivité. L'inquiétude des parents, ça pourrait être, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Il pourra pas travailler, etc. Est-ce qu'on peut pas juste faire un pas de côté et se dire que, franchement, est-ce qu'on peut être autrement que juste se définir par un travail, par une vie de famille, etc., quoi. Et ça, ça m'a ouvert les yeux et sur plein d'autres choses, sur plein de façons d'être au monde, oui, effectivement.
Là, on est aussi ici pour parler de tes révolutions, de la révolution de l'amour, de la révolution de nos familles. Je voulais lire un petit poème pour t'inspirer sur cette deuxième partie de l'entretien, du témoignage. C'est donc issu de la langue des oiseaux qu'on a à la Bibli. C'est donc de Rachel Easterman-Ullman. J'aime beaucoup ce petit ouvrage parce que c'est un recueil de plein de tests pour savoir quelle amoureuse êtes-vous, quelle butch êtes-vous, quel silence êtes-vous, toutes ces choses-là. Et puis à la fin, trois poèmes qu'elle a écrits, puisque cet ouvrage aussi l'aidait à faire le deuil aussi d'une relation. Et ce poème, il parle d'amour et moi, il m'a touchée sur ma révolution personnelle de l'amour. Il s'appelle Coulisses. Je pourrais me glisser sous l'apparence d'un serein attachement, et le moment présent serait suffisant. Je pourrais m'enfoncer dans l'euphorie des petits riens, et le moment présent serait suffisant. Je pourrais avoir le souffle coupé, et le moment présent serait suffisant. Je pourrais rire sans pleurer, et le moment présent serait suffisant. Je pourrais ne pas avoir mal, et le moment présent serait suffisant. Je pourrais ne pas être moi, dire alors les mots parfaits qui emportent, faire les caresses qui dansent sous les doigts, chanter, marcher, rêver. Mais surtout, je te voudrais toi, sans secousse, sans emprise, sans promesse, et tes baisers rempliraient le vide de mon corps. C'est ce moment présent qui serait suffisant, qui serait parfait. Toi, tu dis, dans le stéréotype du couple hétéro que vous êtes, mais alors où est ta révolution aussi dans l'amour aussi que vous partagez et ce même dans l'hétérosexualité puisque même dans cette norme on peut largement faire révolution. Comment tu dirais aujourd'hui que tu entreprends et que tu vis cette révolution là?
Tu parlais tout à l'heure du podcast de Sophie-Marie Larouy, Tiroir Caisse, que j'écoute avec grande attention. Et je dois dire que dans la parentalité queer, j'ai puiser beaucoup de ressources, de pas de côté, de justement de sortir du cadre et des normes. Et ce podcast, par exemple, m'a fait avoir une prise de conscience qui m'a libérée d'un poids. C'était par rapport au témoignage de deux femmes qui voulaient concevoir un enfant. Et la personne non portante se demandait comment elle allait faire lien avec l'enfant. Et la psy a dit « fuck la mère ». Et j'ai adoré « fuck la mère » parce que c'est hyper lourd d'être une mère. Et quelquefois, j'aimerais juste être un parent. Et je trouve que mon conjoint, il porte autant que moi le rôle de parent, vraiment à part égale. On n'a pas de rôle, je trouve qu'on n'a pas de rôle stéréotypé, si bien que mon fils aîné, sa figure d'attachement principale, c'est son papa. Et pendant longtemps, ça a été comme une énorme culpabilité de me dire pourquoi il préfère son papa. Pourquoi quand il a peur, la personne dont il a besoin, c'est son père. Et en fait, pourquoi pas? Voilà, parce que fuck la mère, quoi.
Et c'est ultra chouette aussi parce que ça nous montre que peu importe qu'on soit hétéro, qu'on soit queer, c'est ce que dit aussi Gabrielle Richard dans Faire famille autrement, que ce livre il est pour toutes les familles et qu'elle conseille à toutes les familles de se queeriser, de se queerer, parce que ça veut aussi dire juste faire ce pas de côté et imaginer finalement la famille, la parentalité comme une coparentalité et pas comme un modèle avec un schéma traditionnel hyper hiérarchisé et très très et voilà, très sexiste aussi. Toi, ta révolution, elle est aussi féministe, vu que t'es dans notre bibli, les lunes, les lynx. La parentalité féministe, ça te parle aussi? Et puis le féminisme tout court dans ta vie, qu'est-ce que ça t'apporte pour toi aussi?
Alors, la parentalité féministe, oui, surtout en étant maman de deux garçons. Enfin, on va dire que l'aîné, il est pas du tout perméable aux normes et aux influences. Donc, je vais plutôt parler du deuxième, avec qui je m'interroge, parce qu'il y a l'influence de l'école. Et donc, c'était plutôt simple, quand il était plus petit, d'apporter des jouets de toutes sortes, sans distinction de genre, etc. Là, c'est un peu plus compliqué, donc je veille au grain. Je lui lis des trucs, je lui emprunte beaucoup de livres à la bibli et voilà, il sait qu'il y a plusieurs façons de faire famille. J'essaye de semer des petites graines. C'est pas toujours simple avec l'influence de... Enfin, je suis pas la seule à faire son éducation, quoi. Il y a toute la société derrière. Mais je fais en sorte que ce soit un enfant qui, plus tard, soit vraiment ouvert sur... J'allais encore dire, encore une fois, toutes les façons d'être au monde, voilà.
Et ben, si tu veux, pour te donner des exemples, je peux te citer notre incroyable sélection du jour, très, 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 très fructueuse de la Bibli. On a plusieurs thèmes, des grands schémas. Les essentiels, je dirais, avec notamment donc Révolution amoureuse, de la fameuse collection Sur la table, mais aussi Faire famille autrement ou encore Sortir de l'hétérosexualité. On a les inspirantes avec Le génie lesbien, avec Et l'amour aussi, avec Coming out, dans lequel on trouve plein de témoignages de coming out. Je pense notamment à Pomme, qui se livre toujours beaucoup sans tabou sur sa santé mentale. L'ouvrage aussi Se dire lesbienne. L'ouvrage aussi roman jeunesse que j'aime très fort qui s'appelle No Sex Club sur la sexualité, mais aussi Les guerrières de Monique Wittig pour la base, Les nouveaux modèles avec donc de Polyamour et d'eau fraîche, Amour pluriel de Lauriana, Alicia et Elena Koussi, et puis À nos désirs d'Élodie Fond, ou encore La diversité avec ce magnifique ouvrage Amour au pluriel, La liberté avec Hors d'atteinte de Marcia Burnier, À main nue de Amandine D, Tant pis pour l'amour de Sophia Lambda, et La famille en question avec la question aussi de l'adoption dans Une poupée en chocolat d'Amandine Gay, Libre à elle aussi pour le choix de ne pas être mère de Laurence Santantonios. Je ne veux pas être mère également, le roman graphique d'Irène Olmo, mais encore le fameux manuel Nos enfants nous-mêmes. Et puis des récits tout doux, des récits, des romans là, dont je me suis délectée, que je vous conseille pour cet été. Je pense à La Chasse, je pense à The Black Flamingo, je pense à Félix Ever After, parce que ça fait du bien aussi d'avoir des récits de personnes racisées, de personnes trans, de personnes qui s'aiment de toutes les manières. Et puis Heartstopper aussi chez les ados, mais aussi Lady Papa ou Mes deux mamans et L'amoureux de papa, Girlfriends chez les enfants. Et puis toujours la révolution, sexualité et dissidence queer, mais toutes les étagères de la Bibli de manière générale sur romance queer, amour dissidente, parentalité, sexualité et tout. Nos guides, bien sûr. Je pensais aussi à un ouvrage un peu particulier qui s'appelle « Un monde plus sale que moi » pour justement briser ces vieux schémas toxiques et que les nouvelles générations puissent aussi vraiment connaître cet amour voilà, qui soit libéré de tous ces liens toxiques. Et puis je pense aussi bien sûr à « The Fagots and Their Friends Between Revolution » de Larry Mitchell puisque eh bien, c'est bientôt la Pride et que c'est le mois des fiertés. Bien sûr, toutes ces ressources et plein d'autres, je les mets toujours dans le visuel de l'émission et dans le texte qui accompagne l'émission, donc n'hésitez pas à aller écouter le replay et à aller sur le site de Fréquence 7 pour voir voilà, toutes ces infos. Et avant de vous passer l'extrait donc, des témoignages de ces autres copaines qui ont accepté de participer, on va écouter « Je t'aime de ouf » de Eloi, parce qu'on a besoin d'amour et qu'il s'agit de ça.
Je t'aime de ouf, je crois que je t'ai dans la peau. Même le matin t'es beau. J'ai rêvé que de toi, tu me prends dans le château. Quand je pars en guerre, tu t'as mis direct au fond. L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds. Dans le cœur y'a que toi, y'a de la place pour aucun autre. J'ai déménagé, les jaloux sont sur nos côtes. Je te suivrai partout, j'irai jusqu'en Alaska. Juste pour avoir froid et me plaire dans tes bras. Si tu sais, je suis prête à tout pour toi. Dis pas merci, c'est normal, c'est mon choix. Si tu sais, je suis prête à tout pour toi. Dis pas merci, c'est normal, c'est mon choix. Je crois que je t'ai dans la peau, même le matin t'es beau. J'ai rêvé que de toi, t'es ma prince dans le château. Quand je pars en guerre, tu t'es rendu direct au fond. L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds.
Compris, il y avait trop de contenu. Je me suis encore trop régalée à interviewer toutes ces copaines et toutes ces personnes formidables sur cette thématique révolutionner l'amour et la parentalité. Alors on se retrouve dans 2 semaines pour la 2e partie. Des bisous.
L'amour, c'est compliqué, les sentiments sont profonds.